Je passe maintenant la parole à Maxime, qui va vous proposer de jeter un regard croisé avec Madame Moucharzé sur le thème du devoir de mémoire.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Le fil conducteur de cette émission est la commémoration de la rafle du Vélodrome d'hiver. Pourquoi, 70 ans après, est-il si important de se souvenir de cet événement? Et quelle est la place du devoir de mémoire dans notre société et à l'école? Nous allons commencer par vous, Madame Moucharzé.
Oui, alors il faut d'abord rappeler qu'on commémore la rafle du Veldiv, mais l'année 42, qui est l'année qui a vu plus de la moitié des déportés juifs de France, donc une année où de très nombreux convois sont partis, la rafle du Veldiv étant la plus grande rafle, en effet, qui était faite avec la complicité, on le sait, de la police française. Alors, plutôt qu'à l'expression devoir de mémoire, moi je préférerais le travail de mémoire parce que c'est un véritable travail et devoir d'histoire. J'inverserai peut-être les deux termes. Alors pourquoi est-ce que c'est important? D'abord, nous sommes 70 ans après et on sait bien que malheureusement les derniers témoins vont disparaître et que donc on n'aura plus cet apport absolument irremplaçable qui est la parole des témoins dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a un relais pour nous qui est à prendre, qui est comment garder cette mémoire de toutes ces victimes pour que cette mémoire soit vivante. Alors l'importance en effet de ce travail de mémoire, il est absolument essentiel dans la mesure où il faut rappeler encore une fois non seulement les victimes, et là l'émotion elle est là, elle est forte, elle est parfois envahissante, elle peut être traumatisante, et c'est la raison pour laquelle j'ai employé l'expression travail de mémoire, dans la mesure où il faut tous ensemble qu'on surmonte cette émotion qui envahit, qui peut parfois encore une fois être avoir un effet de sidération, et engager un travail de réflexion à partir de ces commémorations. C'est pour ça que c'est un travail qui est à la fois historique, qui est à la fois mémorial, et qu'il faut absolument tous mener.
Merci. Et vous, Madame Le Cureux, quel regard portez-vous sur la nécessité du devoir de mémoire?
Alors, Madame Moucharzé a bien dit qu'on va peut-être parler davantage du devoir d'histoire que du devoir de mémoire. Et moi, je dirais que l'histoire passe par la mémoire. La mémoire fait partie des objets d'histoire qui doivent être analysés, compris, mis à distance, qui à la fois créent du ressenti, de l'affect, qui est complètement un vecteur pour la compréhension de l'événement. Donc, à ce titre, c'est particulièrement important. Et puis, pourquoi se souvenir de cet événement? C'est pas important, c'est primordial. Je reprendrai tout simplement une citation de Marc Bloch qui disait que « enseigner le passé, c'est comprendre le présent pour agir dans l'avenir ». C'est à ce titre que l'histoire trouve sa place à l'école et que ces événements-là sont étudiés afin de ne pas oublier où la barbarie nazie a conduit. Comment des millions de personnes, je ne parle pas simplement des Juifs de France, mais des hommes, des femmes, des enfants, ont été exterminés, on l'a dit déjà tout à l'heure, pour ce qu'ils étaient et non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose.
Allons plus loin. Abordons la question de la commémoration. Pour vous, Madame Moucharzé, en tant que présidente du Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, quelle est l'importance de la commémoration d'un tel événement ?
Je prends un exemple d'une commémoration qui va se dérouler cette année, c'est ce qui va se dérouler à la date anniversaire de chacun des convois. Et en particulier, je parlerai des 8 convois qui sont partis de ces camps depuis Didier-Bon-de-la-Rolande. Il y en a eu beaucoup d'autres qui sont partis de Drancy. Mais à la date anniversaire de chacun de ces 8 convois, il y aura lecture des noms des 1000 personnes. Enfin, en gros, c'était à chaque fois 1000 juifs qui partaient par ces convois, encore une fois, hommes, femmes et enfants, pour qui ce séjour dans les camps d'internement a été la dernière étape. Alors pourquoi ces lectures? Encore une fois, c'est par respect envers les victimes. Rappeler que d'abord, ce sont des gens qui ont une vie avant, parce que ce que le génocide a voulu détruire, c'est non seulement des personnes, mais aussi c'est toute une culture. On parlera tout à l'heure de cette culture yiddish en particulier, que les nazis ont voulu effacer de la surface de la Terre, de même qu'ils ont voulu effacer toutes les traces de leurs crimes. Donc ces commémorations sont destinées à rendre présente, à rendre vivante la mémoire de ces victimes, parce que, encore une fois, c'est une mémoire qui est difficile. Vous avez dit tout à l'heure que on a préféré à la libération évoquer la résistance. On a peu évoqué la collaboration parce que c'est pas très glorieux pour un pays. Il a fallu des années, 50 ans, moi je dirais, pour que cette mémoire de Vichy émerge. Donc on n'a pas très envie de rappeler ces événements et pourtant il faut les rappeler, y compris dans la responsabilité qui a été celle du régime de Vichy, mais j'ajoute y compris dans ce qu'un certain nombre de personnes ont fait, qu'on appelle les justes, et qui ont, eux, sauvé des Juifs. Donc c'est toute cette mémoire qui est pour nous un enjeu essentiel. Madame Lécureux l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment se fabrique un citoyen, par quelle conscience de ses propres responsabilités que chacun ne peut pas éluder. C'est l'affaire de chacun. Et ici au CERCIL, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est que, encore une fois, ces événements ont été le résultat de décisions collectives, politiques, mais aussi de décisions individuelles. La concierge à Paris qui, le jour de la rafle du Veldiv, dit « Messieurs les policiers, allez donc voir en bas, il y a des Juifs qui se sont cachés », ça a existé. Mais la concierge qui a dit « C'est pas la peine de monter au troisième, il n'y a plus personne » et qui a sauvé la vie ou qui a pris un enfant par la main et qui l'a amené dans sa loge, ça a aussi existé. Je pense qu'il faut rappeler les deux pour notre propre responsabilité de citoyen.
Madame Lécureux, pensez-vous que la commémoration a une place à l'école ?
Alors ce n'est pas la commémoration en tant que telle qui a place à l'école, mais c'est l'analyse qu'on peut en faire, c'est le discours qu'on a autour de celle-ci. Et c'est cela qui doit permettre aux élèves de comprendre ce qui s'est passé, de se l'approprier. Et là encore, je dirais dans l'espérance d'une citoyenneté active, ne pas reproduire cette barbarie.
Mesdames, merci de cet éclairage. Après la rafle du Veldiv, entre le 19 et 22 juillet 1942, près de 8000 personnes, parmi lesquelles plus de 4000 enfants, souvent très jeunes, sont transférés dans les camps de Pithiviers et Bonne-la-Rolande.
Unser Mut ist nicht gebrochen, sie ist das Leben wunderschön. Es klingt von weitem schon nicht so, überall, das ist gemein. Seht die Welt, sie blüht.
Vous venez d'écouter un chant yiddish composé dans le camp d'internement de Pithiviers. Christophine Barranger, bonjour. Vous êtes médiatrice pédagogique au CERCIL. Pouvez-vous nous apporter quelques informations sur ce chant ? Tout d'abord, pour nos auditeurs, pouvez-vous préciser ce qu'est le chant yiddish ?
Oui, bonjour à tous. Alors, le yiddish, c'est la langue des communautés juives d'Europe centrale. Cette langue a quasiment disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, même si aujourd'hui il y a un désir dans certaines familles de renouer avec elle. Les internés des camps de Bonne-la-Rolande et Pithiviers étaient originaires pour la plupart de Pologne, donc ils étaient imprégnés de cette culture yiddish. Ce chant de Pithiviers a été composé par des internés eux-mêmes, Israël Sendorf et Mendel Zemelman, pour les paroles et pour la musique. Il a été composé probablement en avril 1942. Alors ces paroles qui sont pleines d'espoir sont assez étonnantes, puisqu'elles ont été composées à une période où les convois de déportation débutaient justement au même moment. Différents artistes font partie des internés, des peintres, mais aussi des musiciens. Et Israël Sendorf et Mendel Zemelman sont déportés à Auschwitz, ils ne reviendront pas.
Nous venons d'évoquer l'existence du camp d'internement de Pithiviers à travers ce chant yiddish. Le CERCIL retrace dans ses salles d'exposition l'histoire des trois camps d'internement du Loiret, Pithiviers, Bonne-la-Rolande et Jargeau. Nous allons aborder cette question des camps d'internement avec Laura.
Bonjour Christophine Barranger.
Bonjour.
Vous réalisez des visites guidées avec des élèves de collège et de lycée. Comment leur présentez-vous ce qui était un camp d'internement ?
Comme Madame Lécureux nous l'a déjà présenté tout à l'heure, des camps d'internement, en 1941, il y en a sur l'ensemble du territoire français. Et on est interné dans un camp, non pas parce qu'on a commis un délit, mais parce qu'on est considéré comme indésirable. Par exemple, les nomades sont internés en France à partir d'avril 1940. Sur certaines cartes de personnes juives, à Bonne-la-Rolande, il est même inscrit, comme motif d'internement, en surnombre dans l'économie nationale.
Un statut des juifs a été mis en place dès 1940. En quelle année ont été intégrés les premiers juifs dans les camps du Loiret ?
Alors le lendemain du premier statut des juifs, le 4 octobre 1940, il est inscrit un décret dans la loi française, où les hommes juifs étrangers peuvent être internés dans des camps pour les faire travailler. Ce décret sera appliqué sur demande allemande en mai 1941. Le 14 mai, 6000 hommes reçoivent une convocation adressée par la préfecture de police et 3700 d'entre eux vont s'y rendre et seront arrêtés le jour même. Ils seront donc ensuite envoyés dans les camps de Bonne-la-Rolande et Pithiviers.
Sonia a lu, au début de cette émission, une lettre d'une enfant internée à Pithiviers. Est-ce que les enfants étaient les premières personnes internées ?
Non, ce sont d'abord des hommes qui ont vécu de mai 1941 jusqu'en juin et juillet 1942 dans ces camps. Les familles sont raflées à Paris, elles, lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, directement à leur domicile, comme Ian Moucharzel le rappelait tout à l'heure. Au sein même de ces familles, donc plus de 4000 enfants vont être concernés.
Pourquoi ces trois sites, Pithiviers, Bonne-la-Rolande et Jargeau, ont-ils été retenus par le gouvernement de Vichy ?
Ces trois sites existent déjà. Les baraques sont disponibles en mai 1941. Elles ont été construites pour évacuer la population en cas de guerre. Et elles vont servir en septembre 1939, mais brièvement. Puis à nouveau, au moment où on perd la guerre, pour des prisonniers français qui seront ensuite envoyés travailler en Allemagne. Et puis ces baraques donc, qui sont disponibles sont aussi proches de Paris, avec des gares et puis bien reliées au réseau ferré.
Quelles étaient les conditions de vie dans les camps ?
Alors ces conditions de vie sont rudes et elles vont le devenir de plus en plus, surtout à partir de l'hiver. Quand il fait très froid, les baraques ont des chalets avec simplement de la paille et elles sont assez peu isolées. Les conditions d'hygiène, elles aussi, sont très difficiles. L'alimentation est insuffisante. On a un manque cruel de médicaments. Les visites des familles seront également limitées et les courriers vont être censurés.
Merci Christophine Barranger, merci Laura. En 1942, les camps d'internement du Loiret sont surpeuplés. Les premiers convois de déportation vers l'Est s'organisent. Bonjour Rachel Gidinac, votre père a été interné à Bonne-la-Rolande en 1941, à la suite de la rafle du billet vert. Il a ensuite été déporté à Auschwitz en 1942 par le convoi numéro 5. Afin d'évoquer avec vous votre parcours et celui de vos parents, je laisse la parole à Simon.
Bonjour madame. Vos parents sont nés à Varsovie, en Pologne. Ils ont immigré en France dans les années 1920. Pourquoi ont-ils choisi la France comme terre d'accueil ?
Tout simplement parce qu'en Pologne, ils souffraient beaucoup, ils n'avaient pas le droit d'exercer certains métiers, il y avait le numerus clausus, on ne pouvait pas aller à l'université, on ne pouvait pas étudier. Ils sont venus tout simplement en France, dans le pays des droits de l'homme, espérant y avoir une vie meilleure.
En 1939, lorsque la guerre a éclaté, vous n'aviez que 5 ans. Quel souvenir avez-vous ?
J'ai un souvenir précis parce que ma sœur a 5 ans de plus que moi et je savais déjà lire un petit peu et écrire. Et j'ai vu de grandes affiches à Paris, mobilisation générale. Je n'ai absolument pas compris ce que cela voulait dire, mais j'ai pu le déchiffrer. Mon papa s'est engagé pour défendre la France, sa nouvelle patrie, ses valeurs, sa famille, et il est parti faire la guerre.
Lorsque votre père a été interné à Bonne-la-Rolande, dans quelles conditions avez-vous vécu avec votre mère ?
Dans des conditions très difficiles, parce que auparavant ma maman ne travaillait pas, donc elle a trouvé des petits boulots pour essayer de faire bouillir la marmite, et ça a été des moments très difficiles pour nous aussi.
Vous avez porté l'étoile jaune.
Bien sûr.
Comment l'avez-vous vécu ?
Alors, je sais, je connais beaucoup de personnes qui l'ont porté. Pour les plus grands, c'était un petit peu... Ils étaient fiers, pour certains. Pour moi, ça a été très pénible, parce que aussi bien dans la rue qu'à l'école, certains petits camarades ne me parlaient plus, m'ignoraient, et j'ai vécu des moments pénibles. Pour moi, ça a été douloureux de la porter.
Suite à une dénonciation, vous avez été arrêté avec votre mère. Que s'est-il passé après ?
Tout d'abord, ma maman nous avait cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient tout près de chez nous, à 50 mètres environ, parce qu'elle avait dû entendre qu'il y aurait des arrestations le lendemain de femmes et d'enfants. Elle avait dû également apprendre, c'est une hypothèse de ma part, qu'on ne prendrait pas ce jour les enfants avant 2 ans, et les vieillards de plus de 60 ans. Or, mes grands-parents avaient plus de 60 ans. Et elle nous a cachés, ma sœur et moi, chez nos grands-parents. Or, à l'aube, de grands coups frappés dans la porte. Et deux policiers, un en uniforme, je précise, hein, deux policiers français, un en uniforme et en civil, nous ont intimé l'ordre de nous habiller rapidement et de rejoindre notre maman. Et en chemin, ils nous ont dit, d'un air goguenard, vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. On nous a ramenés auprès de notre maman. Là, on nous a donné 5 minutes pour faire notre petite valise, notre baluchon. On nous a montré les listes de familles à prendre. Nous avons encore beaucoup de travail, dépêchez-vous. Nous sommes descendus dans la rue. Vous savez, il faisait déjà très clair et très chaud ce jour du 16 juillet 42. Et j'ai vu de toutes les portes cochères sortir des femmes avec des petits-enfants. C'était pénible. On nous a emmenés tel un troupeau, parce qu'au fur et à mesure, le flot grossissait. Nous étions de plus en plus nombreux. J'habitais le 20e arrondissement de Paris. Et donc, on ne nous a pas mis directement dans les autobus. Nous étions trop nombreux dans le 20e arrondissement. Donc, on nous a amenés dans des centres de rassemblement. Je précise que tout le long du chemin, j'ai vu des gens aux fenêtres, sur les trottoirs, certains firent le signe de croix, les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant, certains passaient indifférents, et je précise toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort.
Vous avez été caché. Comment cela s'est-il passé ?
Pas caché tout de suite, parce que je veux dire que je me suis échappée de ce centre de rassemblement. C'est très important de le dire, sinon j'aurais fini comme les autres à Auschwitz. Et ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est nous faire fuir. Nous étions très nombreux dans ce centre de rassemblement qui est devenu un lieu festif, la Bellevilloise. Nous étions serrés les uns contre les autres, le petit baluchon au pied, et une dame est venue dire à ma mère, Léa, une grande fille de 14 ans, vient de s'enfuir par l'issue de secours, car nous étions dans un lieu où auparavant il y avait un cinéma, des salles de réunion, donc une issue de secours, d'où ma possibilité de fuite. Mais quand on a 8 ans, qu'on voit des hommes en armes qui crient, qui hurlent, des enfants qui pleurent, une chaleur indescriptible, nous mourions de soif. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. Alors j'ai hurlé, je ne veux pas te quitter. Et elle m'a donné une gifle pour m'obliger à partir. Sur le moment, je n'ai pas compris. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes allés vers l'issue de secours. Et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Donc, voilà. Après, je suis retournée chez mes grands-parents avec ma sœur. Nous avons vécu là pendant quelques temps. Jusqu'à la seconde rafle que j'ai vécue le 11 février 1943.
Comment avez-vous vécu votre retour à votre véritable identité après la libération ?
Auparavant, j'ai passé par différents endroits. J'ai été cachée dans différentes familles. Certaines familles me gardaient 8 jours. Je suis allée chez des sœurs, dans des familles catholiques. Ces gens-là ne pouvaient pas me garder car ils risquaient d'être dénoncés. Donc, je les remercie déjà de m'avoir gardée pendant quelques jours. J'ai vécu dans un centre pour enfants juifs où là, nous étions constamment en danger parce que les nazis avaient les adresses de ces centres. Et je suis sortie de là, j'ai été cachée. J'ai une cousine qui était résistante, qui m'a procuré de faux papiers, à ma sœur aussi. Et en janvier 44, je crois, je suis partie à Château-Renaud, près de Tours. Et là, j'ai vécu sous une fausse identité. Je m'appelais Rachel Gédinac, j'avais déjà 9 ans et demi. Et ma nourrice ne savait même pas mon identité. J'en suis sortie un mois avant la libération de Château-Renaud parce qu'elle me battait. Je passe là-dessus. Et je suis retournée à Paris avec ma sœur, donc à la libération de Château-Renaud. Après la libération, nous sommes revenus dans l'appartement de mes parents avec ma grand-mère. Là, sur l'appartement, il y avait des scellés et nous avons forcé les scellés. Nous sommes rentrés, il n'y avait plus rien chez nous. Aucun objet, aucun meuble, aucun objet ne me rattachait à mes parents, à ma vie d'avant. Et si ma tante, qui est restée en vie, ne m'avait pas donné quelques photos, j'aurais oublié les traits de mes parents.
Pourquoi ressentez-vous le besoin de témoigner encore ?
Je crois que qu'on ne nous a pas laissé parler pendant très longtemps. Comme vous disiez très justement, la France résistante. Or, il y a eu beaucoup de délations pendant la guerre, des milliers de lettres de délation. Et il a fallu grandir avec cela. J'ai voulu parler tout de suite. Et on nous disait, allez, allez, on ne parle plus de ça, on parle de l'avenir. Alors nous nous sommes tus. Bien entendu, cela a été évoqué précédemment. Les archives se sont ouvertes et il a fallu tant d'années pour que nous puissions témoigner. Je témoigne déjà depuis, je crois, 17 ans. Ce sont mes petits-fils. Ma fille a été traumatisée par mon histoire et celle de mon mari parce que je me suis mariée avec un fils de déporté également. Et ce sont mes petits-fils, l'aîné de mes petits-fils qui m'a dit un jour... Il faut que tu ailles dans des écoles, il faut que tu parles, il faut que tu écrives, il faut qu'en France, on sache ce qui s'est passé.
Merci beaucoup, madame, pour ce bouleversant témoignage. Nous arrivons bientôt au terme de cette édition. Loïc, peux-tu expliquer à nos auditeurs les temps forts qui ont rythmé la préparation de cette émission ?
Bonjour à tous. En effet, au mois de novembre dernier, notre classe a rencontré au Cercil Simon et Claude Cogos, deux frères qui ont été cachés dans le Berry, près de Châteaumeillon. Leur parcours a été très différent de celui de Madame Géginac, que nous venons d'entendre. Ils ont eu la chance de retrouver leurs parents après la guerre et gardent un souvenir agréable de leur séjour chez un couple d'agriculteurs. Habitant Paris avec leurs parents, ils ont franchi la ligne de démarcation à Vierzon pour trouver refuge à Châteaumeillon. À la suite de cette rencontre, notre classe s'est penchée sur son histoire locale. Nous avons rencontré Dominique Hadd, réalisateur du docu-fiction « La cicatrice ». Avec Alain Leclerc, archiviste municipal, nous sommes allés sur les lieux qui ont marqué la ville de Vierzon pendant l'occupation allemande. Deux camarades de notre classe, Raphaël et Anthony, ont recueilli le témoignage de M. Demney, officier d'état civil qui a résisté en produisant les faux papiers. Nous écoutons tout de suite son témoignage.
À quel âge avez-vous commencé à créer des fausses cartes d'identité ou des ausweis ?
Voilà, je n'ai jamais créé d'ausweis. Je n'ai fait que des fausses cartes d'identité pour obtenir de vrais ausweis de la crèche commandantour. Et je venais juste avoir 19 ans avec messieurs Branger, Bruno, Katemi, chez mes deux chefs. Et nous étions les trois plus jeunes parmi les employés hommes des services administratifs de la mairie.
Quel événement particulier vous a donné l'envie de faire de faux documents ?
Ah oui, très bien. Bien voilà, c'est devant les nombreux candidats au passage clandestin qui se présentaient à notre guichet de la mairie pour obtenir d'éventuels renseignements pour franchir une embarcation que nous avons pensé qu'il nous était possible de tenter de rendre service à tous ceux qui nous sollicitaient et nous avons mis au point notre organisation de faussaires.
N'aviez-vous pas peur de vous faire dénoncer ?
Après quelques arrestations, mes collègues Branger et Bruno, qui étaient mariés et pères de famille, ont jugé plus prudent de cesser leur activité de passeur courant octobre 40. Personnellement, j'ai donc continué seul avec l'insouciance de mes 19 ans, sans penser que je pourrais être arrêté un jour ou l'autre, tant notre système paraissait fiable. Actuellement et 70 ans après ces événements, il m'est permis de supposer que nous étions certainement les tout premiers à avoir mis au point ce système, que j'ai utilisé jusqu'à fin février 42, après avoir cessé définitivement, faute de clandestins, candidats au passage.
Combien de documents avez-vous modifié ?
Eh bien, je n'ai pas modifié de documents, puisque j'établissais des fausses cartes d'identité, je fabriquais des fausses attestations, avec une fausse attestation comme quoi le monsieur avait un terrain, cultivait un terrain en zone non occupée, au Bourgneuf, Et puis c'était tout ce que je faisais, puis après ça, je donnais ça au service des laissés-passer, qui instruisait le dossier. Je le récupérais assez rapidement, et je déposais à la caisse commandantour dans la journée pour obtenir le laissé-passer le soir.
Combien en avez-vous fait au total ?
J'ai fait passer au minimum 900 clandestins. Entre début juillet 1940 et le 15 février 1942.
Est-ce que vous faisiez ça gratuitement ?
Je faisais ça absolument gratuitement.
Avez-vous côtoyé des résistants ?
Ben, j'ai forcément côtoyé des résistants, surtout quand j'étais en prison. Parce que la prison, sur On était 500 à l'école à l'époque au Bordio. Sur 500 prisonniers au Bordio, on était facilement 450 résistants.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous tenons à remercier le CERCIL, les témoins et les intervenants, ainsi que la délégation académique à l'action culturelle, le CLEMI, le Collège Édouard Vaillant et la mission TIS pour son soutien technique. Au revoir à tous.
Das Leben wunderschön, es klingt von weitem schon die Zochen, überall, was ist gemein. Seht die Welt, sie blüht schon wieder, wie jedes Jahr, wie jeder Mann. Jeder Mensch hat seinen Bruder, es muss die Welt doch werden frei. In der Heim, dort Weib und Kind,